De Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Or, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront épris d'eux-mêmes, aimant l'argent, vains, orgueilleux, médisants, rebelles à père et à mère, ingrats, impies, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant la volupté plutôt que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force, éloigne-toi aussi de ces gens-là. Bonjour à tous, frères et sœurs. Je vous souhaite un bon sabbat, que ce soit le début ou sa fin pour vous. Nous sommes aujourd'hui sur la deuxième partie de ce message en deux parties que j'avais et que j'ai toujours intitulé Deux appels distincts mais liés. Deux appels distincts mais liés. Et si vous vous en souvenez, j'espère que vous en souviendrez, la dernière fois nous nous étions concentrés principalement sur le fait que, sur tout d'abord, l'identité de Babylone, l'identité tout particulièrement de la Babylone mentionnée dans l'appel solennel d'Apocalypse chapitre 18 verset 4, qui est une réitération de l'appel du message du deuxième ange dans Apocalypse chapitre 14, je crois que c'est le verset 8, oui. Et nous avions réfléchi à cela, nous avions cherché à comprendre qui est inclus dans Babylone, et nous en avions tiré la conclusion que l'Église adventiste n'est pas Babylone. Toutefois, nous avions tout de même vu quelle est la description biblique et inspire, et ainsi que la description de l'esprit de prophétie qui nous permet de retrouver l'identité et les caractéristiques de l'Église adventiste du septième jour moderne à travers donc la parole de Dieu et le témoignage de Jésus. Et nous avions conclu que cette Église, de même que sa fille, à savoir le mouvement de réforme, peuvent être comprises et vues comme des sœurs de Babylone. Donc, non pas des filles, mais des sœurs. Et comme des sœurs qui ne prennent pas, qui ne participent pas, qui ne souscrivent pas aux deux erreurs principales de la Babylone mère, à savoir l'immortalité de l'âme et la sainteté du dimanche, nous avons vu que le message d'Apocalypse chapitre 18 verset 4 ne les concerne pas, mais concerne ce que nous avions vu comme les églises protestantes apostates, premièrement aux États-Unis d'Amérique, au temps du message du deuxième ange, et par la suite à toutes ces églises à travers le monde, à travers ce dernier appel adressé au peuple de Dieu dans Babylone. Mais avant que cet appel soit lancé au peuple de Dieu dans Babylone, hein, dans les églises apostates, protestantes et l'église catholique, un autre appel est adressé au peuple de Dieu, aux saints et influencé par le méchant serviteur de Matthieu chapitre 24. Je crois que c'est verset 48 jusqu'au verset 51. À la différence du serviteur bon, du serviteur prudent et fidèle, qui donne à la maison de Dieu la nourriture au temps convenable. Donc je n'y reviens pas, on avait exploré tout cela et nous avions vu également que ce qui était applicable à l'Église adventiste et au mouvement de réforme, c'était un autre appel, un appel distinct de celui adressé à Babylone et à ses filles. Un appel que nous avions vu notamment dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14. Et maintenant nous voulons faire le pont avec cette méditation précédente et faire ce que je vous avais proposé de faire, à savoir faire suite à cet appel à sortir du milieu d'eux, sortir du milieu de l'obscurité. Et c'est le but de cette méditation. Car, donc voilà ce que j'avais, ce que j'étais en train de, ce vers quoi je voulais attirer votre attention. Dans notre précédent message, nous avions exploré l'identité de la Babylone mentionnée dans Apocalypse chapitre 14 et Apocalypse chapitre 18 verset 1 à 4. Nous avons compris que ces passages parlent principalement de la chute morale des églises protestantes. Nous avions vu également que l'église adventiste moderne n'est pas Babylone, mais qu'elle correspond plutôt à la description donnée par Jésus du méchant serviteur qui mange et qui boit avec les ivrognes. Nous avons abordé ce que j'ai appelé, pour pouvoir se comprendre dans l'étude, ce que j'ai appelé le premier appel, adressé au peuple de Dieu dans Babylone, c'est-à-dire aux disciples de Jésus de confession protestante et catholique, un appel à sortir de ces églises qui enseignent la confusion et qui coopèrent avec l'effort vers l'implémentation de la marque de la bête. C'était dans une des citations, nous avions réfléchi à cela, nous avions contemplé cela. Je n'y reviens pas. Si vous voulez savoir de quoi je parle, je vous invite à repartir et reméditer sur ce message. Mais alors maintenant, si l'appel, frères et sœurs, si l'appel à sortir de Babylone concerne les protestants et les catholiques et que l'église adventiste moderne, comme nous l'avons vu, n'est pas Babylone, mais plutôt une sœur de Babylone, car elle ne souscrit pas aux erreurs principales de la Babylone mère, à savoir l'immortalité de l'âme et la sainteté du dimanche, y a-t-il un appel dans la parole de Dieu par lequel tant les membres de l'église adventiste moderne que ceux du mouvement de réforme sont exhortés à rompre leur affiliation religieuse? Un tel appel existe-t-il dans la parole de Dieu par lequel l'étudiant de la Bible peut voir le chemin que Dieu lui trace sans aucune interprétation humaine incongrue et qui ne s'harmonise pas avec le bon sens que Dieu donne à ses enfants? Y a-t-il un tel appel? Et pour cela, pour débuter ici notre méditation, je vous invite à lire avec moi la citation suivante qui se trouve dans le livre « Instructions pour un service chrétien effectif » à la page 51 et au paragraphe 2 et 3, principalement le deuxième paragraphe, où la servante du Seigneur ici disait en 1893 le suivant. Notez bien, nous cherchons à voir s'il existe, dans ici d'ailleurs, comme vous allez voir dans le témoignage de Jésus, et par extension dans la parole de Dieu, un appel. C'est une déclaration solennelle, dit l'esprit de prophétie, que je fais à l'Église. Il n'y a pas une personne sur 20 de celles dont les noms sont inscrits sur les registres de l'Église qui soit prête à terminer sa course terrestre et qui ne se trouverait pas, si cette éventualité se produisait, dans la condition du pécheur habituel, c'est-à-dire sans Dieu et sans espérance dans le monde. Ces personnes font profession de servir Dieu, mais en réalité elles servent Mammon. Ce demi-service pour l'un et pour l'autre est en fait un reniement constant de Christ plutôt qu'une confession de lui. Beaucoup sont entrés dans l'Église en conservant un esprit insoumis et frustre, leur sens spirituel est perverti par leur corruption avilissante, ils agissent selon le monde dans leur esprit, dans leur cœur, dans tous leurs desseins, traduisant ces tendances dans des actes licencieux et faisant preuve d'hypocrisie dans toutes les manifestations de leur profession de chrétien. Ils vivent comme des pécheurs tout en se prétendant chrétiens. Ceux qui font profession d'être chrétiens et qui désirent confesser Christ doivent sortir du milieu d'eux, ne pas toucher à ce qui est impur et se séparer d'eux. Quoi? En 1893, la servante du Seigneur, Ellen White, disait, sous l'esprit d'inspiration, que la condition au sein de l'Église adventiste en 1893 est qu'il n'y avait pas une seule personne, il n'y avait pas une personne, c'est-à-dire que moins d'une personne sur 20, il n'y a pas une personne sur 20, c'est-à-dire moins d'une personne sur 20, ce qui est égal à, regardez, 1 sur, une personne sur 10, ça serait 10%. Une personne sur 20, ça serait 5%. Elle dit, il n'y a pas 5% de nos membres, hein, il n'y a pas une personne sur 20 de celles dont les noms sont inscrits sur les registres de l'Église qui soit prête à terminer sa course terrestre. Donc, en 1893, lorsque l'effectif de l'Église adventiste du septième jour mondiale était à peu près de 40 000 personnes, Sir White disait, il n'y a pas 5% de nos effectifs qui soient vraiment connecté à Jésus et qui, s'il mourait, serait prêt. Vous voyez? Pas une personne sur 20. Et disait, telle était la condition de l'Église adventiste en son temps, alors qu'il vivait dans une société relativement pieuse comparée à la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Donc, et quelle était la nature des personnes qui n'était pas prête, selon le regard de Dieu et la sagesse divine ici, parce que c'est inspiré. Elle disait, ils étaient dans la condition du pécheur habituel ou littéralement ordinaire. C'est-à-dire que tout pécheur ordinaire, c'était la condition dans laquelle se trouvait 19 20e, plus de 19 20e. Plus de 95% des membres de l'Église adventiste se trouvaient dans la condition du pécheur ordinaire, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Sans Dieu et sans espérance dans le monde, quoique ayant la vérité de Dieu et professant l'espérance de la vie éternelle. Ces personnes, que faisaient-elles? Comment se distinguaient-elles? Font profession de servir Dieu, mais en réalité, elles servent Mammon. Beaucoup sont entrés dans l'Église, excusez-moi, en conservant un esprit insoumis et frustre. Donc c'était des personnes qui avaient été ajoutées à l'Église, mais qui n'avaient pas été converties, qui avaient été baptisées, mais qui avaient été baptisées vivantes. Non pas mortes, mais vivantes. Etc. Donc elle donne toute cette définition de ces personnes, comment ces personnes sont caractérisées. Ils agissent selon le monde, dans leur esprit, dans leur cœur, dans tous les desseins, traduisant ces tendances dans des actes licencieux et faisant preuve d'hypocrisie dans toutes les manifestations de leur profession de chrétien. Ils vivent comme des pécheurs tout en se prétendant être chrétiens. Et quel est l'appel ici? Quel est l'appel fait à un peuple qui vit parmi un autre, un peuple d'autres personnes, une majorité de personnes qui font profession d'être chrétiens, mais qui vivent comme des pécheurs, qui font profession d'être chrétiens, mais qui vivent comme des mondains. Quel est l'appel? Ils vivent comme des pécheurs tout en se prétendant chrétiens. Et maintenant, voilà ce que, et maintenant elle fait la distinction. Donc, eux vivent comme des pécheurs et prétendent être chrétiens. Maintenant, ceux qui font profession de christianisme, ou littéralement ceux qui prétendent être chrétiens, donc elle utilise le même langage, et maintenant elle dit, ceux qui prétendent être chrétiens, et qui désirent confesser Christ, doivent sortir du milieu d'eux, ne pas toucher à ce qui est impur, et se séparer d'eux. Et donc la question ici qui se pose intelligemment, c'est comment vous pouvez faire ces trois choses-là et rester sur les registres de l'Église dont la majorité des membres vivent comme des chrétiens tout en professant être vivent comme des pécheurs tout en professant être chrétiens. Comment est-ce possible? Et vous voyez donc, qu'est-ce qui caractérisait cette majorité écrasante des membres de l'Église du septième jour en 1893? Ils vivent comme des pécheurs tout en se prétendant chrétiens. Je cite encore, « Ils agissent selon le monde dans leur esprit, dans leur cœur, dans tout leur dessein. » Et pour pas que nous croyions que c'est simplement le témoignage de Jésus, quel langage la Bible emploie-t-elle qui fait écho à ces déclarations du témoignage de Jésus que nous venons de lire? Eh bien, précisément, notre lecture biblique de 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Lisons-le une fois de plus, et cette fois-ci, réfléchissons au sens. L'apôtre Paul, ici, avertissait, sous l'esprit encore une fois d'inspiration, au sujet des derniers jours. Que dit-il? Or, sache, dit-il, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Pourquoi? Car les hommes seront épris d'eux-mêmes. C'est-à-dire épris d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils s'aiment eux-mêmes. Aimant l'argent, ou littéralement, convoiteur. Vain, orgueilleux, médisant, rebelle à père et à mère, ingrat, impie, sans affection naturelle, implacable, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, et là, littéralement, comme c'est marqué en anglais, aimant le plaisir plus que Dieu, comme c'est d'ailleurs dans la Bible second, aimant le plaisir plus que Dieu, verset 5, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force, quel est l'appel? Quel est l'appel? Éloigne-toi aussi de ces gens-là. Pourquoi aussi? Parce que le chrétien était déjà appelé à s'éloigner, à ne pas vivre de manière semblable que les païens, donc il était par conséquent appelé à ne pas prendre part aux voies impies des païens. Mais maintenant, l'apôtre Paul dit « Il y aura dans les derniers jours des temps difficiles de telle sorte que même les personnes faisant profession d'être chrétiens vivront comme des païens. » Nous avons vu, ils vivent comme des pécheurs tout en prétendant être chrétiens. Vous voyez le lien ici? Vous voyez comme la parole de Dieu, ou je devrais dire l'esprit de prophétie fait directement écho à la parole de Dieu, sauf que l'esprit de prophétie nous montre que les temps sont tellement difficiles que cette réalité était applicable même au sein de l'Église adventiste du septième jour en 1893. Dites-moi, mes frères et sœurs, réfléchissez un instant. Si en 1893, c'était le cas au sujet de l'Église dont Sœur White elle-même disait que nous courons le danger de devenir une sœur une sœur de la Babylone déchue. Si en cette époque, alors qu'elle disait qu'il ne faisait que courir le danger de quelque chose qui allait en empirant, une personne sur 20 était prête, dites-moi mes frères et sœurs, combien sont prêts aujourd'hui? Mais la chose qui est intéressante et importante à mentionner, c'est que ces moins de 5% qui étaient prêts furent cristallisés et écrits sur le marbre lorsque, en Europe, il y eut l'apostasie des dirigeants de l'Église adventiste du septième jour qui décidèrent d'envoyer leurs membres au front et les poussant ainsi inévitablement à enfreindre à la fois le quatrième et le sixième commandement, ainsi que certainement d'autres par ce fait même. Et lorsque cela eut lieu, ils réalisèrent, et d'ailleurs certaines revues en Allemagne en rendirent témoignage que il s'agissait de 2% des membres de l'Église adventiste en Allemagne qui choisirent de rester fidèles au commandement. 2%. Donc pas 5%, pas 1 sur 20 était prêt en Allemagne, sans parler de dans le reste du monde. Sauf que les autres ne furent pas nécessairement confrontés au besoin d'aller au front, mais ils n'étaient pas plus prêts pour autant. Vous comprenez? Donc, le fait d'être prêt ou pas prêt, ça ne veut pas dire qu'ils vont mourir, ça veut dire que s'ils mouraient, ils ne seraient pas prêts. C'est ça que Sir White disait. S'ils mouraient, ils n'ont pas de relation avec Jésus. Jésus dirait d'eux, je ne vous connais point. Parce que, précisément, pour les raisons que nous avons énumérées et vues juste avant. Et donc, si nous réfléchissons ici, comment cela peut-il être? Les âmes qui sont épris d'eux-mêmes, aimant l'argent, vains, orgueilleux, médisants, sans affection naturelle, ingrats, impies, implacables. C'est-à-dire que vous pouvez pas les concilier, implacables. Ils sont irrésistibles, vous ne pouvez pas résister. Ils n'ont pas de contrôle d'eux-mêmes. Qu'est-ce que c'est? Calomniateurs, c'est-à-dire qu'ils calomnient, ils critiquent, ils condamnent. Intempérants, ils ne savent pas se contrôler eux-mêmes, cruels. Et quoi? Ennemis des gens de bien. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont des gens de bien, qui veulent faire le bien que Dieu leur demande de faire, qui veulent se soumettre à Dieu. Mais dans l'Église, ils vont trouver des personnes qui sont ennemies de ce genre de personnes. Ennemis des gens de bien. Des personnes qui font profession. Quoi? Des personnes qui ont l'apparence de la piété, mais qui en réalité dans leur cœur sont toutes ces choses-là, ou peut-être pas toutes en même temps, mais qui ont l'esprit d'être capables de toutes ces choses-là, quoique leur inclinaison naturelle ne les pousse pas forcément à être orgueilleux, mais ils le sont, ou à être médisants dans cette mesure-là ou cette proportion, mais ils le sont, à être calomniateurs, mais ils le sont, à être intempérants, mais ils le sont. Et ils sont ennemis des gens de bien, traîtres. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de fidélité, ils ne sont pas loyaux. Ils ne sont pas loyaux à Dieu, donc ils ne peuvent pas être loyaux à vous. Ils vous trahiront aux autorités si l'opportunité se présentait. Ils ne sont pas loyaux à Dieu, ils ne peuvent pas être loyaux à vous. Emportés. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas se contrôler. Donc, si vous les mettez en colère, attention, parce qu'il n'y a pas Jésus qui les contrôle. Il n'y a pas Jésus qui est sur le trône de leur raison. Attention, ils s'emporteront. Vous verrez que l'esprit de Satan est dans leur cœur, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plutôt que Dieu. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui aiment Dieu, mais qui aiment le plaisir plus. Et ça, c'est vrai, même de personnes qui font profession d'être chrétiens. C'est ça ce que cela veut dire, ayant l'apparence de la piété. La piété, selon la parole de Dieu, c'est des personnes qui font profession d'être comme Christ. C'est ça. Ils croient en cela, ils prêchent cela, ils présentent cela, ils promeuvent cela, mais ils n'en ont que l'apparence, ils n'ont que l'apparence de cela. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils en renient la force, c'est-à-dire ils renient le fait, ce qui donne la réelle puissance de la piété. Ils préfèrent, ils aiment l'apparence, mais ce qui seul permet la réelle piété, ils le renient. Et donc, vous voyez ici que la parole de Dieu nous apprend que l'une des choses qui rendrait ces derniers jours si difficiles, ce serait la religion sans la vraie puissance de la piété. Et ce qui est intéressant ici, j'ai fait une petite recherche qui vaut la peine d'être prise en compte dans notre méditation, parce que nous voulons vraiment méditer. Eh bien, la définition du Larousse du mot piété est la suivante. Je cite, c'est la vertu qui dispose à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû par les actes extérieurs de la religion. Je répète, la vertu qui dispose à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû par les actes extérieurs de la religion. De toute évidence, ceux qui ont produit le Larousse ne connaissent pas le christianisme biblique. On ne peut pas leur en vouloir. Mais j'aimerais rebondir sur cette définition qu'il donne, parce qu'elle est bonne jusqu'à ce que nous atteignions les quatre derniers mots, les actes extérieurs de la religion. Eh bien, la réalité, c'est que la Bible définit différemment la piété que simplement une conformité extérieure aux formes de la religion. Plus que simplement une obéissance et une conformité extérieure aux formes de la religion, voilà la définition que nous donne la parole de Dieu de la piété. Tournez-vous avec moi vers les paroles de Romains chapitre 6. Nous allons faire une brève étude. Dans Romains chapitre 6, verset 16. Tout cela est important, frères et sœurs, afin que nous puissions comprendre la nature du deuxième appel. Ce que j'ai appelé le premier appel, le deuxième appel, vous pourriez inverser. L'important, c'est de distinguer l'un de l'autre. Dans Romains chapitre 6, verset 16. Versets 16 et 17, nous lisons. Ne savez-vous pas, verset 16, que si vous vous rendez esclave de quelqu'un pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu, hein, dit l'apôtre. Grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été donnée. Et ce qui est intéressant, c'est que en anglais, il y a marqué vous avez obéi du cœur à la forme de doctrine. À la forme de doctrine qui vous a été donnée. Hein? Et en anglais, de Timothée chapitre 3, verset 5, c'est ayant une forme de la piété, mais en reniant la force. Une forme de la piété, l'apparence de la piété, ce sera synonyme. Et ce l'est. Et l'apôtre Paul, il rendait témoignage des chrétiens de Rome en disant à leur sujet qu'ils avaient obéi du cœur à la forme de la doctrine, c'est-à-dire aux formes extérieures, mais il les avait épousées de l'intérieur. Vous voyez, donc leur conformité aux formes n'était pas une conformité uniquement extérieure, mais c'était une conformité du cœur aux exigences de Dieu. Vous voyez? Et si vous vous tournez ici vers Éphésiens chapitre 6, et cela montre combien superficielle est la définition du Larousse du mot piété, à savoir une vertu qui dispose à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû par les actes extérieurs de la religion, or que l'appel du premier ange, à savoir craignez Dieu et donnez-lui gloire, est un appel au cœur et pas simplement à une conformité aux formes extérieures de la religion et aux actes extérieurs de la religion. Vous tournez également vers le passage d'Éphésiens chapitre 6, versets 5 et 6. Et c'est intéressant parce que si nous nous considérons comme esclaves de Dieu, parce que si vous repartez vers, j'ai oublié de mentionner cela, si vous faites attention aux paroles de Romains chapitre 6, verset 18, il est écrit que, or, ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Hein? Esclave de la justice et donc, par extension, esclave de Dieu. Parce qu'au verset 22, il est écrit, mais maintenant affranchi du péché et esclave de Dieu, vous en retirez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Hein? Donc, avant vous étiez esclave du péché et par extension, esclave du diable. Et maintenant, en ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice et esclave de Dieu. Et maintenant, nous tournons vers les paroles d'Éphésiens chapitre 6, verset 5, où il est écrit. Donc maintenant, étant devenu hein, du moins en profession, mais ce serait beaucoup mieux en réalité, étant devenu esclave de Dieu parce que affranchi du péché à travers Jésus-Christ, il est écrit, nous voyons maintenant le parallèle entre des esclaves, de maîtres, des serviteurs et des maîtres dans le contexte de cette époque-là, et maintenant nous qui sommes appelés et qui devrions être en tant que chrétiens esclaves de Dieu vis-à-vis de la justice. Lisez bien cela. Il est écrit, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de vos cœurs, comme à Christ, ne les servant pas seulement sous leurs yeux, comme si vous cherchiez à plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, faisant de bon cœur la volonté de Dieu. Et donc, la piété, c'est l'acte et le cas, c'est la vertu qui consiste à rendre gloire à Dieu en faisant sa volonté de bon cœur, en obéissant à la forme de doctrine et à la règle de doctrine depuis notre cœur, pas simplement sur la surface, comme une conformité à des actes et des exigences extérieures de la religion. Maintenant, ça, c'était pour avoir une compréhension du mot piété, hein, la vertu de rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû, l'honneur et la gloire, par l'obéissance qui vient du cœur. Telle est la piété. Se conformer à la volonté de Dieu. Piété, c'est comme ils disent en anglais, godliness, c'est-à-dire être semblable à Dieu. C'est ça. Et maintenant, nous voulons réfléchir à la logique de l'appel qui est adressé au peuple de Dieu, non pas demeurant parmi les filles de Babylone, mais au peuple de Dieu, où qu'il se trouve, et également dans son affiliation à des organisations qui ont pour majorité ce genre de personnes décrite dans 2 Timothée chapitre 3. Maintenant, déjà en 1893, comme d'ailleurs en 1886, les fidèles au sein de l'organisation étaient mis en garde contre des frères et des sœurs qui étaient chrétiens de nom, mais mondains de cœur. Nous avons vu cela dans le livre Instruction pour un service chrétien, page 51. Paragraphes 2 et 3. Et lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté, hein, les conséquences catastrophiques d'une telle profession de foi hypocrite furent révélées. À savoir, ce contre quoi Sir White avait mis les frères en garde, eh bien, cela s'est confirmé et il s'est révéler combien c'était destructeur ce genre de foi hypocrite, parce que ceux qui étaient d'un tel esprit, ils se mirent à persécuter leurs frères qui désirèrent être fidèles ou simplement à apostasier en substance de la vérité. De toute évidence, frères et sœurs, le temps écoulé depuis cette époque-là jusqu'à maintenant n'a clairement pas amélioré la condition de l'Église adventiste, conformément aux paroles de 2 Timothée chapitre 3, verset 13, qui nous dit que les hommes iront je vais reprendre le passage, iront en empirant. De Timothée chapitre 3, verset 13. Donc, en lien avec ce qu'on a vu au sujet de personnes qui ont l'apparence de la piété mais qui ont renié la force, nous lisons que les hommes méchants et les imposteurs iront en empirant, séduisant et étant séduits. Et donc, si les choses iront en empirant plutôt qu'en s'améliorant, à quoi pouvions-nous nous attendre et à quoi pouvons-nous nous attendre en rétrospective vis-à-vis de la détérioration des membres au sein de cette église. Voilà la question, je la laisse ouverte, mais elle est évidente. Je veux dire, la réponse à cette question est évidente. Et donc ça permet de voir, et d'ailleurs nous allons y revenir quand nous conclurons pour faire le lien entre les deux appels, mais maintenant que j'ai fait mention de cela, car il le faut, hein, personne ne va le faire pour moi, et encore moins des personnes pour vous, il faut faire mention du fait évident que nous sommes confrontés dans le mouvement de réforme comme dans l'Église adventiste à l'empirement et non à l'amélioration de la condition des membres au sein de ces organisations qui, suite à l'apostasie de ces organisations, ne peuvent qu'aller en empirant et non pas en s'améliorant. Bien sûr, cela est un fait, c'est une généralisation, et il y a de toute évidence des exceptions, mais c'est précisément en raison de ces exceptions que l'appel est existant dans 2 Timothée chapitre 3 verset 5, à savoir à s'éloigner aussi de ces gens-là. Parce que s'il n'y avait pas d'exception, il n'y aurait pas lieu à adresser cet appel et pour que cet appel existe, mais cet appel existe précisément parce que des exceptions existent et que Dieu désire que son peuple s'affranchisse de l'influence délétère de telles personnes sur la foi et la condition spirituelle de ceux qui désirent vraiment servir Dieu et confesser Christ, pour reprendre le langage. Alors, maintenant j'aimerais mettre une parenthèse. Ou plutôt, le reste était une parenthèse et cela est le sujet principal, peu importe. J'aimerais faire une parenthèse qui est non sans importance et qui est d'ailleurs l'objet même et le cœur de cette méditation présente. Parce que, quoi que cela soit le cas et que nous ne renions, je ne renie absolument aucune des choses que je viens de dire, quoique elles déplaisent à certains, quoi que ce soit le cas, et que ce soit absolument vérifiable, et que j'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises, bien que ça ait souvent tendance à échapper à notre mémoire, quoi que ce soit le cas, eh bien, frères et sœurs, Dieu, dans son infinie sagesse, connaissant très bien la nature de l'homme, lui lance un appel abordant à la fois son cœur et son affiliation religieuse. Vous allez voir pourquoi je dis cela et qu'est-ce que je veux dire par cela. Vous allez voir que ce n'est d'ailleurs pas moi qui le dis, c'est bien mieux. J'aimerais vous lire quelques extraits d'une présentation que le frère Alonzo Trevor Jones avait faite, qui s'intitulait d'ailleurs Le message du troisième ange. Cet extrait est pris du General Conference Bulletin, donc du bulletin de la Conférence générale de 1895. Donc il avait présenté des séries d'études en 1893, en 1895 et puis en 1897. Et celle-ci, c'est 1895. Et voilà certaines des choses qu'il disait et que nous ferions bien d'écouter attentivement afin de comprendre l'élargissement de l'appel, incluant même les personnes qui croient avoir déjà répondu à l'appel. Et c'est d'ailleurs ce que nous allons pouvoir prendre pour nous-mêmes, qui vivons, en ces derniers jours. Je lis. Il cite donc ce passage de 2 Timothée chapitre 3, ainsi: Or sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront épris d'eux-mêmes, éloigne-toi aussi de ces gens-là. Excusez-moi. Et maintenant, il commente. Et voici ce qu'il dit. Si donc je suis épris de moi-même, c'est de cela que je dois m'éloigner. Mais de qui dois-je m'éloigner? Du moi, assurément. Sortez de Babylone, éloignez-vous de ces gens-là. Ce n'est pas que je dois vous regarder et vous étudier pour voir si vous êtes épris de vous-même, pour voir si vous aimez l'argent, si vous êtes vain et orgueilleux, pour ensuite m'éloigner de vous. Pas du tout. Ce n'est pas à moi de regarder les autres et de dire « Oh, je ne veux pas être dans une église avec des frères comme cela. Je ne peux pas y être un bon chrétien. Je pense que je ferais mieux d'aller à Auckland et de rejoindre l'église là-bas. Ou je pense que je ferais mieux d'aller à Battle Creek et de rejoindre l'église là-bas. Les frères ici chez moi sont tellement... Oh, j'ai du mal à le décrire. Mais c'est très désagréable et très difficile d'être un chrétien ici. Je pense que je vais devoir quitter cette église et en rejoindre une autre. » Fin des guillemets. Et il dit, ce n'est pas du tout une solution, car à moins que vous ne soyez véritablement converti et séparé du monde, lorsque vous avez fait tout cela, lorsque vous avez fait tout cela, l'église que vous aurez rejointe est bien pire qu'elle ne l'était auparavant et bien plus babylonienne du simple fait que vous vous y trouvez. Éloigne-toi aussi de ces gens-là. Si je dois m'éloigner de moi-même, où se trouve Babylone? Où se trouve le monde? Tout simplement dans le moi. Comme nous l'avons vu dans les Galates, dans Galates au 4e chapitre. Ensuite, il continue, il termine, il cite le passage de Romains chapitre 2. « Toi qui te glorifies de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi, car le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les gentils, comme cela est écrit. L'un des fléaux des derniers jours, c'est que les hommes faisant profession de piété seront des blasphémateurs. Es-tu un blasphémateur? Portes-tu le nom du Seigneur en vain? Éloigne-toi aussi de ces gens-là. » Et ensuite, dans une autre citation qui se trouve dans Bible Echo and Signs of the Times, du 4 février 1895, donc c'est page 36, paragraphe 6 à 10, voilà ce qu'il dit à un autre endroit, mais directement lié à ce que nous venons de lire. Je le lis. Cette omniprésente apparence de la piété sans la force, et qui en nie même la force, est le formalisme mort contre lequel nous devons mener le bon combat de la foi vivante. Hein? La foi vivante qui est apportée au monde par le message du troisième ange a pour but de nous sauver et d'empêcher que nous ne soyons engloutis dans cette mer mondiale d'un formalisme mort. Oh, oh. Oh, vous comprenez un peu? Sir White disait au sujet de A.T. Jones et du frère E.G. Wagoner que Dieu les avait utilisés pour transmettre et réveiller son peuple et leur donner une vision de Jésus et du message de la justice par la foi. Qu'est-ce qu'il disait? Cette omniprésente apparence de la piété sans la force et qui en nie même la force et le formalisme mort, contre lequel quoi? Contre lequel nous devons mener le bon combat de la foi vivante. Donc, contre qui devons-nous mener un bon combat de la foi? Contre des personnes, cette personne-ci, cette personne-là, en disant « Oh, cette personne est un peu trop babylonienne pour moi, un peu trop formaliste pour moi. » Non, c'est contre le « moi » en nous que nous devons prioritairement mener ce combat afin d'éviter à tout prix cette apparence de la piété sans la force et qui en nie même la force. La foi vivante qui est apportée au monde par le message du troisième ange a pour but de quoi ? De nous sauver. Littéralement, de nous sauver d'être engloutis dans cette mer mondiale d'un formalisme mort. Quel est le problème mondial Donc le problème qui engloutit aujourd'hui même, déjà, qui engloutissait déjà le monde en 1895 et à plus forte raison aujourd'hui, quel est ce problème? Cette mer mondiale d'un formalisme mort. Qu'est-ce que c'est le formalisme mort? L'apparence de la piété sans la force de la piété. L'apparence des bonnes apparences, l'apparence chrétienne, une profession de foi, mais un formalisme mort. Tel est ce que le message du troisième ange, en nous apportant le message de la foi vivante, est destiné à faire en nous sauver de cette mer, de ce formalisme, nous sauver d'être engloutis dans cette mer. Pourquoi serions-nous engloutis? Parce à cause du moi, à cause de notre chair, à cause de notre disposition naturelle à nous satisfaire des formes sans Jésus. Je poursuis. Qu'en est-il de vous personnellement aujourd'hui? Il demande. Avez-vous un formalisme mort ou bien une foi vivante? Avez-vous l'apparence de la piété sans la force? Ou avez-vous, par une foi vivante, la présence et la puissance du Sauveur vivant dans votre cœur, donnant un sens vivant, une vie et une joie à toutes les formes du culte et du service que Christ a établi, accomplissant les œuvres de Dieu et manifestant les fruits de l'Esprit dans toute votre vie? Il pose la question, qu'en est-il de vous aujourd'hui? Personnellement aujourd'hui, qu'en est-il de nous? Qu'avons-nous? Est-ce la foi vivante que nous avons ou est-ce un formalisme mort? Est-ce l'apparence de la piété ou est-ce la force de la piété? Quelle est la force de la piété? Avez-vous par une foi vivante la présence et la puissance du Sauveur vivant dans votre cœur, donnant un sens divin à toute votre vie, une vie, une joie à toutes les formes du culte? Si nous avons Jésus dans nos cœurs, la présence et la puissance du Sauveur vivant dans notre cœur, cela donnera un sens divin à tout ce que nous faisons, cela donnera une vie et une joie à toutes les formes du culte. Alors, nous n'aurons pas simplement l'apparence de la piété, mais nous obéirons du cœur à la forme de la doctrine, à la règle de la doctrine, comme c'était vrai des Romains, à l'époque où l'apôtre Paul leur écrivait. Accomplissant les œuvres de Dieu et manifestant les fruits de l'Esprit dans toute votre vie. Plus encore, il est écrit, excepté comme le moyen de trouver Christ, le Sauveur vivant, dans la parole et la foi vivante de celui-ci, même cette parole elle-même peut être transformée en un formalisme mort aujourd'hui, comme elle le fut jadis lorsqu'il, Jésus, était sur la terre. Il leur dit alors de point, vous sondez les Écritures parce qu'en elles vous croyez avoir la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez point venir à moi pour avoir la vie. Il poursuit. Ils pensaient trouver la vie éternelle dans les Écritures sans Christ, c'est-à-dire en les mettant eux-mêmes en pratique. Mais, il cite, mais voici le témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils tel que nous le trouvons dans les Écritures et non dans les paroles des Écritures sans lui. Car ce sont elles qui rendent témoignage de lui, tel est leur objet. C'est pourquoi, il cite, qui a le Fils a la vie, qui n'a point le Fils de Dieu n'a point la vie. 1 Jean chapitre 5, versets 11 et 12. Et il termine en citant l'esprit des prophéties, en cette citation, la véritable piété élève les pensées et les actions. Alors, les formes extérieures de la religion s'accorde avec la pureté intérieure du chrétien, alors les cérémonies requises pour le service de Dieu ne sont pas des rites dénués de sens comme l'étaient ceux des pharisiens hypocrites. Hein? Voyez un peu? Et comment la Bible exprime-t-elle davantage ce formalisme mort que nous sommes exhortés à fuir en nous-mêmes, ainsi que dans les églises qui ont apostasié de la vérité? Hein? Parce que cet appel « Éloigne-toi aussi de ces gens-là », il concerne notre éloignement de l'apparence de la piété sans la force en nous et également de cette apparence de la piété sans la force dans les églises qui ont apostasié de la vérité. Parce que nous avons vu, le frère disait, ce n'est pas pour moi de regarder et de voir si vous êtes, si cette personne est vaine, orgueilleuse, est prise d'elle-même, etc., afin que je puisse me séparer d'elle. Non, ce n'est pas des personnes, ce sont des églises. Surtout des églises qui ont apostasié de la vérité, comme nous avions vu dans les études précédentes. Je n'ai pas vraiment le temps d'y revenir. Si nous tournons vers les paroles de Romains chapitre 2, verset 17, nous en voyons l'écho de ces paroles du frère A.T. Jones. Romains chapitre 2, verset 17, il est écrit « Toi donc qui portes le nom de Juif et qui te repose sur la loi et qui te glorifie en Dieu, qui connaît sa volonté et qui discerne ce qui est contraire, étant instruit par la loi, toi qui crois être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des ignorants, le maître des simples, ayant dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Tu prêches de ne pas dérober et tu dérobes. Tu dis de ne pas commettre d'adultère et tu commets adultère. Tu as en abomination les idoles et tu commets des sacrilèges. Toi qui te glorifies de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les gentils, comme cela est écrit. » Éloigne-toi aussi de tels gens, est l'appel. Éloigne-toi de cette incohérence en toi. Éloigne-toi de l'hypocrisie en toi. Éloigne-toi du formalisme mort dont tu t'es satisfait. Éloigne-toi aussi de ces gens-là. Et nous nous tournons également vers les paroles d'Ésaïe chapitre 29, verset 13. Tel est l'appel, frères et sœurs. Hein, ce n'est pas le même genre d'appel que nous aimerions naturellement pouvoir adresser à des personnes en pensant que nous avons tout bien et parfait dans notre vie, de telle sorte que maintenant nous n'avons plus qu'à appeler les personnes. Non, mais il nous faut répondre à cet appel constamment afin de pouvoir l'adresser à qui que ce soit. Ésaïe chapitre 29, verset 13, nous lisons. Et le Seigneur dit, « Puisque ce peuple s'approche de moi de sa bouche et qu'il m'honore de leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi, puisque la crainte qu'ils ont de moi n'est qu'un commandement enseigné par des hommes. » Qu'est-ce qu'il disait le frère A.T. Jones? Jésus leur disait, vous sondez les Écritures parce qu'en elles vous pensez avoir la vie éternelle et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et ils venaient aux Écritures pour les mettre en pratique eux-mêmes. Et ici, il s'agit d'un peuple qui vient à Dieu et qui l'honore de leurs lèvres, qui ont l'apparence de la piété, mais ils n'ont pas la force de la piété parce que leur cœur est éloigné de moi, dit Dieu. Et donc, si notre cœur est éloigné de Dieu, mais que nous continuons à venir à Dieu pour nous conformer aux formes de la religion, Dieu dit, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Éloigne-toi aussi de ces gens-là. Donc, à travers toute notre vie, nous nous sommes peut-être, et je dis peut-être parce qu'il y a des personnes qui, en réalité, n'ont même pas répondu au premier appel, sans parler de ce deuxième. C'est-à-dire, ils se sont éloignés de certaines personnes, ou même pas. Ou peut-être qu'ils l'ont fait, peut-être que nous nous sommes éloignés de certaines personnes dans notre vie dont l'influence nous était délétère, mais il y a encore cette éloignée aussi de ces gens-là qui, de cette disposition en nous, à avoir Babylone en nous et le monde en nous. Tel est l'appel que le frère A.T. Jones, sous l'esprit d'inspiration, adressait au peuple de Dieu, et tel est l'appel qui nous vient ici à travers les âges, encore aujourd'hui, et à plus forte raison aujourd'hui, vis-à-vis et face, et alors que nous sommes confrontés à cette mer mondiale d'un formalisme mort, dont la racine est dans notre cœur. Tournez-vous aussi avec moi vers les paroles de Tite, chapitre 1, verset 16. Tite, c'est avant Hébreu. Oui, Tite, chapitre 1, verset 16. Tite, chapitre 1, verset 16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Font profession de connaître Dieu, ont l'apparence de la piété, mais ils le renient par leurs œuvres, ils renient la force de la piété. Comment cela se traduit? Les œuvres montrent que ce n'est que l'apparence. Les œuvres montrent. Même si nous venons à Dieu pour entendre tout, pour apprécier tout, les œuvres montrent si ce n'est que l'apparence ou si nous avons la présence et la puissance du Sauveur vivant dans nos cœurs, donnant un sens à notre vie et une vie à tous les actes de conformité aux formes du culte. Et donc, nous devrions nous éloigner et fuir de telles personnes en nous-mêmes, de tels gens en nous-mêmes, car si nous fuyons seulement, notez bien, car si nous fuyons seulement ces gens-là, de tels gens, mais que nous sommes encore nous-mêmes de tels gens, alors nous apporterons l'esprit du formalisme mort où que nous allions. C'est ce que le frère disait. Après que nous ayons quitté une église pour en rejoindre une autre, eh bien, l'église que nous aurons rejointe ne sera que pire pour cette raison même que nous nous y trouvons. Et donc, si nous sommes encore de telles personnes, mais que nous fuyons de telles personnes, nous apporterons l'esprit du formalisme mort où que nous allions, quand bien même nous avons quitté de tels gens déjà. Et j'aimerais que nous nous tournions pour conclure progressivement vers cette citation de l'esprit de prophétie. J'ai beaucoup de citations, mais je vais vous donner la totalité dans le PDF bientôt. Mais là, je vais juste en lire une ou deux et je vais me diriger vers la conclusion. Dans Instructions pour un service chrétien effectif, à la page 56 et au paragraphe 2, je lis le suivant. Beaucoup ont l'apparence de la piété. Leurs noms sont inscrits sur les registres de l'Église, mais ils ont un registre souillé dans le ciel. L'ange a soigneusement enregistré leurs actions, tout acte égoïste, toute parole inexacte, tout devoir non accompli et tout péché secret, ainsi que toute dissimulation, quelque habile qu'elle soit, est fidèlement enregistré dans le livre du souvenir dont s'occupe un ange spécialement désigné à cet effet. Et également dans Patriarches et Prophètes, page 291, paragraphe 2, je lis: Il n'est que trop fréquent aujourd'hui de voir l'amour du plaisir se déguiser sous l'apparence de la piété. La religion qui permet de se livrer à des penchants égoïstes et sensuels, tout en exigeant l'observance des formes du culte, et de nos jours, comme au temps d'Israël, celle qui plaît à la multitude. Et il y a encore en haut, c'est-à-dire occupant des positions élevées, des hautes positions, il y a encore en haut dans l'Église des Aaron complaisants qui cèdent au désir des personnes sans consécration et qui ainsi les encouragent dans la voie du péché. Voilà, je vais vous passer tout le reste. Et donc vous voyez ici, ce n'est que trop fréquent aujourd'hui, disait-elle quand elle a écrit tout cela, mes frères et sœurs, si c'était vrai en son époque, aujourd'hui c'est la coupe est complètement pleine jusqu'à la lie, elle est complètement pleine, excuse-moi pas jusqu'à la lie, mais jusqu'au rebord, elle est pleine et elle déborde, la coupe est pleine et déborde de cet amour du plaisir qui se déguise sous l'apparence de la piété, cette mer mondiale d'un formalisme mort. Et entre parenthèses, l'Église adventiste, comme le mouvement de réforme, est remplie d'Aaron complaisants, occupant des positions importantes, qui cèdent sans cesse au désir des personnes sans consécration et qui ainsi les encouragent dans la voie du péché. En réalité, c'est ça, parce que peut-être qu'il demande une stricte adhérence et obéissance et une conformité à certaines formes, mais le reste, il laisse tout passer. Il laisse tout passer. Vous vous rappellerez de cette citation que j'avais lue de Sir White au sujet de. C'était dans Conseil sur l'adultère, et je crois. Oui, c'est ça. Elle disait, nous courons le danger de devenir une sœur de la Babylone déchue. Et de laisser nos églises se corrompre. Hein? Laisser nos églises se corrompre, c'est directement lié à l'apparence de la piété et à l'existence de ce type de personnes qui sont similaires à Aaron, c'est-à-dire des personnes complaisantes, influençables, et qui, quoi qu'ils occupent des positions importantes dans l'Église, permettront à l'Église de se corrompre aux membres et encourageront les membres dans la voie du péché. Vous voyez? Et je lis également la citation dans Conseil à l'Église, page 29 et paragraphe 5. Nous allons bientôt conclure. Où l'esprit de prophétie nous dit ceci: l'apparence de la piété ne sauvera personne. Hein? Rappelez-vous, la parole de Timothée chapitre 3 nous dit: éloigne-toi aussi de ces gens-là. Éloignez-vous de ces gens-là, si et parce que telle est la disposition en nous. L'apparence de la piété ne sauvera personne. Tous ont besoin d'une expérience profonde, réelle, qui seule permettra de traverser les temps difficiles. Alors, l'œuvre de chacun sera éprouvée, et si nous avons bâti avec de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses, nous serons mis à l'abri dans le secret de la tente du Seigneur. Mais si notre œuvre est de bois, de foin ou de chaume, rien ne pourra nous protéger de la colère de l'Éternel. Et ici, c'est intéressant. Regardez un peu. J'ai vu que bien des gens se jugent en comparant leur vie à celle des autres. Et vous voyez que cela est directement lié à l'apparence de la piété, parce que la seule chose qui nous permet de vivre dans l'apparence de la piété, c'est parce que cela perd de son tranchant la valeur catastrophique d'une telle foi, et le danger que nous encourons en vivant un tel formalisme perd de son tranchant au vu du fait que ce soit si omniprésent dans le monde, ce formalisme. Hein? Et vous voyez plein de personnes se convertir, mais ils se convertissent à un formalisme. Et donc nous disons, nous sommes baignés dans cette mer et nous ne réalisons pas le danger que nous encourons. Et donc c'est en se comparant nous-mêmes aux autres que nous nous permettons et que les hommes se permettent, et nous y compris, frères et sœurs, d'où donc la nécessité pour nous de répondre à cet appel, nous permettons à travers cette comparaison mutuelle à une foi si superficielle. Et donc, il est écrit, j'ai vu que bien des gens se jugent en comparant leur vie à celle des autres. Cela ne doit cela ne doit pas être. Personne, sinon Christ, ne nous est donné en exemple. Il est notre seul vrai modèle et chacun devrait s'exercer à l'imiter de son mieux. Nous sommes ouvriers avec Christ ou avec l'ennemi, ou nous amassons avec Jésus ou nous dispersons. Nous sommes chrétiens de tout notre cœur ou nous ne le sommes pas du tout. Christ dit « Oh, si tu étais froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Et maintenant, j'aimerais que nous concluions, frères et sœurs. J'aimerais que nous concluions par la citation suivante du frère. Encore du frère A.T. Jones. Dans le General Conference Bulletin, à la page 132 et au paragraphe 2. Voilà ce qui est écrit. Il est donc évident, c'est le frère qui dit cela, il est donc évident que le troisième chapitre de la deuxième épître à Timothée décrit bel et bien Babylone. Le troisième chapitre de 2 Timothée est à cet endroit-ci une description de Babylone, tout comme Apocalypse 18 est à cet endroit-là une description de Babylone. Et lorsque le passage de 2 Timothée chapitre 3 se termine en disant « Ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force, éloigne-toi aussi de ces gens-là », ce cri « Éloigne-toi de ces gens-là » est à cet endroit-là, est à cet endroit-ci, l'appel à sortir de Babylone, tout comme « Sortez du milieu d'elle, mon peuple », est à cet endroit-là l'appel à sortir de Babylone. Et j'aimerais ajouter ceci pour conclure, frères et sœurs. Donc vous voyez à travers cette citation que la raison pour laquelle j'ai intitulé ce message « Deux appels distincts mais liés », à savoir l'appel qui concerne nous, en tant qu'individus vivant dans cette chair de péché, ainsi que les membres de l'Église adventiste moderne et les membres du mouvement de réforme, et celui que nous trouvons dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5, et précisément au verset 5. Ce verset de 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5, est également lié à l'appel au peuple de Dieu dans Babylone. Et donc, voyez ici que, comme nous venons de le voir, la chose vers laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est maintenant que nous avons vu le lien entre ces deux appels, pouvons-nous nous éloigner de l'apparence de la piété sans sa force en nous, tout en demeurant auprès de tels gens? Et pour cela, j'attire votre attention vers les paroles de 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, où nous lisons « Ne vous abusez point, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Et également, vous pouvez trouvé dans Tite, chapitre 3, versets 10 à 11, ainsi que Romains, chapitre 16, versets 17 à 18, ainsi que 2 Jean, chapitre 1, versets 10 à 11. Malheureusement, j'ai écoulé mon temps. Et donc, ce passage d'un Corinthiens, chapitre 15, verset 33, nous montre que, quoique l'importance, c'est pour nous de recevoir cet appel personnellement, lorsque nous recevons cet appel personnellement, pouvons-nous recevoir cet appel personnellement tout en demeurant auprès de personnes qui rejettent cet appel personnellement? La Bible nous dit que nous nous abusons si nous pensons que nous le pouvons. Et donc, l'appel pour les adventistes et les réformateurs en ces derniers jours, c'est un appel à double tranchant, un appel pour le cœur et un appel abordant la question de la filiation religieuse. À savoir que les mauvaises compagnies ne peuvent que corrompre les bonnes mœurs. À savoir, si nous répondons aux appels de Jésus dans sa parole, dans ses témoignages, dans ses exhortations à travers ses serviteurs choisis, mais que nous restons attachés aux mauvaises compagnies, nous ne pourrons réellement croître, nous ne pourrons réellement être purifiés, nous ne pourrons réellement nous préparer, car ces mauvaises compagnies ne pourront que corrompre les bonnes mœurs que nous cherchons à acquérir et à garder à travers et par la grâce de Dieu. Donc voilà, frères et sœurs, je m'excuse pour cette interruption, mais je prie que à travers cette réflexion sur ces deux appels distincts mais liés, nous puissions comprendre où que nous nous trouvions l'appel que Dieu nous adresse et nous lance, que nous soyons encore dans ces affiliations-là ou que nous ayons coupé les ponts avec de telles organisations. Dans les deux cas, nous avons, comme j'aimerais le dire, un grand travail devant nous, à savoir celui de nous éloigner de ces gens-là, nous éloigner de Babylone, nous éloigner du monde qui est si étroitement, qui a tant de choses en commun avec notre cœur naturel et charnel. Et puisse vraiment, et donc, nous voulons nous concentrer et nous tourner vers ce Jésus qui disait aux pharisiens, aux scribes de son temps, vous sont des écritures, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous ne voulez pas venir à moi afin d'avoir la vie. Telle est la caractéristique de personnes qui ont l'apparence de la piété, mais qui en renient la force, c'est que ils veulent l'apparence, le nom de Jésus, mais ils ne veulent pas de Jésus. Nous voulons donc non seulement le nom de Jésus, nous voulons non seulement les formes de sa doctrine, nous voulons non seulement les formes de sa religion, nous voulons non seulement l'apparence de la piété, mais nous voulons celui qui fait la force de la piété, c'est-à-dire la présence et la puissance de Jésus vivant dans nos cœurs, pour donner un sens à toute notre vie et pour remplir toutes nos actions de vie. Et comme c'est marqué dans notre mot, de vie et d'odeur, un parfum, que nos actes soient parfumés par les mérites de Jésus d'une manière active. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui, frères et sœurs. Je prie que Dieu nous bénisse à travers les semaines et les mois à venir pour que nous puissions prendre au sérieux ces appels. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.